Bienvenue au podcast des questions d'Alexis, espace où l'on discute de la place du marché du carbone dans l'atteinte des cibles climatiques. Je suis votre animatrice, Alexis, et aujourd'hui, on jase de carboneutralité. Pour répondre à mes questions, je suis accompagnée de Martin Clermont, PDG de l'entreprise Les Solutions Will et expert en la matière, qui nous suit tout au long de notre série. Bonne écoute! Martin, bonjour!
Bonjour, Alexis!
Ça va bien?
Ça va très bien. Et toi?
Oui, ça va bien. On approche à grands pas de la conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP26, qui va avoir lieu à Glasgow, au Royaume-Uni, à partir du 31 octobre. Comment est-ce que tu entrevois cette conférence-là cette année?
Écoute, il y a beaucoup d'attentes de différentes parties prenantes de la société, que ce soit des citoyens, des organisations non gouvernementales, du monde financier, des entreprises. Alors, ça va être, je dirais, captivant d'en voir, de suivre les débats, mais surtout de voir les conséquences ou les résultats par la suite. Alors,
oui, absolument. Un des quatre objectifs centraux, c'est l'atténuation et la réduction des émissions pour atteindre net zéro émission d'ici 2050, ou autrement dit, la carboneutralité, qui est le thème de notre capsule de cette semaine. J'aimerais que tu m'expliques d'abord, Martin, comment est-ce qu'on peut définir le concept de carboneutralité?
Ben, je dirais que carboneutralité, pour moi, c'est avant tout une reconnaissance d'un geste ou d'une action climatique qui est faite par une personne ou un organisme. Alors, si je me résume ou si je reviens à ce qu'on a discuté les autres fois, Alexis, j'aime bien le mantra « Pour toute personne ou organisation, je mesure mes émissions de GES, je les réduis et je contribue aux efforts de mes voisins, de ma communauté, dans le but, sur le plan planétaire, qu'on réduise les émissions de GES. »
C'est ça, parce que c'est un mouvement qui est planétaire, mais en fait, il y a aussi plusieurs entreprises, organisations qui adhèrent au mouvement, à ce mouvement-là de la carboneutralité. Comment est-ce inscrit justement dans les entreprises, ou comment est-ce qu'une entreprise peut devenir carboneutre?
En fait, une entreprise devenir carboneutre, c'est plutôt un geste ou une reconnaissance qu'elle s'implique dans le défi climatique, parce qu'une entreprise ou même un individu, je reviens toujours à ce que je dis, tout geste a un impact. Alors, notre consommation, notre existence va générer des émissions de GES. Alors, quand une entreprise ou un individu ou un produit est associé carboneutre, pensons plutôt qu'il y a une reconnaissance dans le geste d'une solidarité aux actions climatiques faites par à l'extérieur de cette entreprise-là.
Oui, parce que c'est impossible, en fait, d'avoir une empreinte carbone qui est nulle. Puis on peut peut-être dire que d'acheter des crédits, c'est des crédits de carbone, en fait, c'est de reconnaître ses limites individuelles, puis de participer, puis d'encourager les efforts qui sont réalisés par d'autres aussi en même temps.
Tout à fait. Oui, j'aimerais ça que tu me donnes la recette de zéro émission carboneutre. Alors, j'attends.
Oui, bien, oui, c'est ça. C'est compliqué, je pense, mais tu sais, en soi, le concept se veut assez simple dans le sens que les émissions qu'on émet, elles doivent être égales aux émissions qu'on retire de l'atmosphère, ce qui fait le net zéro. Il y a beaucoup de... On peut en fait acheter des crédits de carbone sur les marchés volontaires, aussi par les marchés réglementés, qui permettent justement d'atteindre cette carboneutralité-là. Mais est-ce qu'on peut faire le pont entre la neutralité d'entreprise et la neutralité planétaire?
Je reviens toujours à tout geste, un impact. Alors, toute action a un impact positif. Toute action de réduction, de séquestration ou de capture des émissions de GES avec des technologies d'ingénierie, je pense que les trois sont des approches qui contribuent à avoir une planète carboneutre ou à la rigueur même carbonégatif si on arrive à retirer plus de GES de l'atmosphère qu'on en émet, et on va en avoir besoin au-delà de 2050 de retirer les GES qui se sont accumulés comme dans une baignoire depuis la fin, le début de l'ère industrielle.
Ouais, justement, tu as dit la date magique, le 2050. On entend souvent qu'on doit atteindre la carboneutralité d'ici 2050, mais pourquoi est-ce que ce 2050-là est si important?
Bien, c'est un engagement planétaire supporté par, justement, comme tu parlais d'entrée de jeu, la conférence de la COP26 qui aura lieu à Glasgow cette année. Alors, c'est un engagement des pays de tout faire ce qui a été signé à Paris en 2015, de tout faire pour maintenir la température globale de la planète entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Beaucoup prêchent pour 1,5. Alors, et 2050 étant la date, ou je dirais le moment où le jalon qui va déterminer si oui ou non on est sur le chemin de zéro émission ou du respect du 1,5 à 2 degrés d'augmentation de température en 2100. Mais entre-temps, Alexis, il y a des jalons intermédiaires.
Exactement. J'allais justement dire que souvent les politiques climatiques sont basées sur plusieurs jalons, plusieurs espèces d'escaliers. Justement, celui qui est le plus près de nous, c'est l'horizon 2030. Puis je me demandais ce que cet horizon-là représentait.
Bien, c'est un défi, là. L'horizon 2030, ça a été un signal du GIEC. Ça, c'est le groupe d'experts scientifiques qui, en 2018, déterminait si on veut atteindre la cible de 1,5 à 2 degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle-ci, il faudrait réduire les émissions en référence de 2010 en 2030 de 45 %. Ça représente tout de même 200 milliards de tonnes à éliminer, à couper d'émissions au niveau planétaire. C'est tout un défi. Et quand on parle 2030, on est déjà entamé dans la décade et on regarde la tendance et on a repris beaucoup du galon après le grand confinement sanitaire. On a pris beaucoup de galons sur les émissions. Alors, il y a énormément d'actions à prendre et je pense qu'on a à dépasser les seules, ambitions ou à la rigueur les mots. Il faut aller au-delà et s'engager dans des actions.
Oui, justement, 9 ans pour ce genre d'action-là, c'est un peu demain. Il faudrait agir rapidement. Est-ce que le Canada est en voie d'atteindre ses cibles, justement, reliées à l'horizon 2030, ou on risque un peu de les rater si on n'agit pas?
Définitivement, il va falloir agir. Alors, le gouvernement qui a été réélu et s'engageait à réduire les émissions de 40, je pense entre 40 et 45 % à partir des émissions de référence 2005 pour 2030. Mais je lisais cette semaine un rapport de l'Institut d'énergie Trottier qui disait que les calculs qui étaient produits par Environnement Canada ne remplissaient pas les cibles de réduction. Alors, beaucoup à faire. Alors, au-delà des rapports et des constats ou des programmes, il va falloir mettre la main à la pâte au Canada comme dans tous les autres pays.
Oui, puis ben, en fait, c'est aussi pour ça que c'est où en fait la compensation des émissions de gaz à effet de serre devient pertinente dans l'atteinte du net zéro. On n'aura pas le choix de le faire. Mais en termes je reviens aux entreprises, est-ce que tous les objectifs net zéro que les entreprises auxquels les entreprises s'engagent, est-ce que ça aligne avec la science ou pas nécessairement?
Non, pas nécessairement. Regarde, pour l'instant, il y a un peu de tout. On voit qu'il y a au niveau mondial, il y a des mouvements pour regrouper, pour avoir une uniformité. Ce que je peux te mentionner, c'est un mouvement particulier, le SBTI, Science Based Target Initiative, qui regroupe jusqu'à maintenant 1000 entreprises. Eux, ils se sont engagés finalement dans le processus du net zéro carbone, de focusser plus sur le zéro que sur le less. Alors, autrement dit, viser des réductions avant tout et moins le less zéro, ça veut dire moins la compensation. Donc, en premier, viser des réductions et par la suite complémenter avec des crédits de carbone qui représentent soit des réductions, soit de la séquestration ou soit de la captation technologique de CO2 dans l'atmosphère. Et en mettant une contrainte ou c'étant déjà en discussion, je pense que ça va se discuter d'ici la fin 2021, donner des limites finalement à l'utilisation des crédits de carbone qui pourraient représenter jusqu'à 10 % du portefeuille d'une entreprise. Donc, toutes ces émissions d'une entreprise, que ce soit les émissions directes, indirectes ou les émissions en amont, en aval de l'entreprise, alors qu'on appelle Scope 3. Alors, je pense qu'il y a une modération dans tout mettre dans l'utilisation de crédits de carbone, mais en même temps, si on le situe dans le geste que ce sont des actions climatiques qui sont financées à travers l'achat de crédits de carbone, je pense qu'il faut complémenter avec les deux. Donc, toujours la même chose, je reviens. Une recette à 3 ingrédients, on mesure annuellement, on réduit changement de comportement, technologie, et on contribue aux efforts des autres de notre communauté avec des crédits de carbone.
Mais tu m'as un peu devancé. En fait, j'allais justement te demander, c'est quoi le rôle de la Science Based Target Initiative? Puis selon ce que je comprends, dans le fond, ce serait une organisation qui est là pour guider les entreprises à établir des objectifs net zéro qui s'alignent avec la science. C'est ça?
Tu as tout à fait raison. Et en plus, ce n'est pas seulement aider les entreprises, mais c'est mettre un processus dans lequel il y a une validation tierce partie. Parce qu'une entreprise peut se faire un plan, alors c'est bien qu'elle soit pas confrontée, mais vérifiée, validée pour s'assurer que ça respecte l'alignement du net zéro carbone pour 2050. Et eux autres aussi travaillent par étapes, donc ils prévoient mettre des plans de 5 à 10 ans pour graduellement atteindre le net zéro carbone en 2050 et le plus tôt que 2050 sera le mieux. Donc, on voit déjà l'approche internationale des objectifs 2030 planétaires 2050. Au niveau des entreprises, c'est aussi agir rapidement maintenant par étapes. Alors, par décade, si je dirais l'expression.
Puis, en fait aussi, comment est-ce qu'on peut atteindre la carboneutralité à l'échelle globale, donc au niveau planétaire?
Ça va prendre les efforts de tous. Alors, on peut avoir différents, si on vient à la mesure, la réduction et la contribution. Alors, ça va prendre des projets qui réduisent les émissions de GES à la source. Donc, on émet moins de GES. J'aime toujours la figure d'une baignoire qui est trop pleine. La première chose, c'est de fermer le robinet. La deuxième, c'est d'être ambitieux sur les programmes de séquestration de CO2. Bon, tu as deux façons de le faire, soit avec la nature, par la conservation ou plantation d'arbres ou l'utilisation différente des sols qui captent le CO2, ou en implantant graduellement des technologies de captation de CO2 qui sont déjà dans l'atmosphère pour pouvoir les concentrer et liquéfier, puis les enfouir dans des failles géologiques, par exemple. Alors, les toits ambitieux, j'insiste toujours, le plus important, ce sont des projets de réduction.
Oui. Est-ce que justement ces technologies-là de captation de CO2 sont en développement à l'heure actuelle, mais à quel point est-ce qu'on peut compter sur elles pour la carboneutralité en 2050?
Je pense que, d'après moi, ça fait partie de l'équation, mais en priorité, je dirais réduire est le plus important. Il y a déjà des technologies, si je ne me trompe pas, il y a un projet qui a été testé ou qui est en progression, mais en opération en Islande pour une petite quantité de CO2 qui a été captée. Si on pense en termes, regarde l'enveloppe du défi qu'on a jusqu'en 2050, net zéro carbone pour toute la planète, ça peut représenter 1 500 milliards de tonnes de CO2 qu'on doit couper. Et si on utilise la référence du SBTI, d'utiliser les crédits de carbone à 10 % de cette enveloppe-là, c'est quand même 150 milliards de tonnes de crédits de carbone, soit réduites, séquestrées ou captées, qu'on devra stimuler par l'utilisation des crédits de carbone. Donc, c'est des chiffres qui sont impressionnants.
Oui, en effet, absolument. Puis, on va aller voir juste une petite... Toute étude de cas sur lequel j'aimerais entendre ton opinion. Récemment, depuis avril 2021, en fait, lorsqu'on magasine sur le site web de Amazon, on peut apercevoir l'étiquette Climate Pledge Friendly apparaître pour certains produits qu'on peut acheter. Cette étiquette, dans le fond, ça certifie que le produit en question est carboneutre. Est-ce qu'en achetant ce produit en tant que consommatrice, consommateur, on participe directement à l'atteinte de la carboneutralité à l'échelle planétaire ou c'est un peu flou? En fait, j'aimerais juste entendre ton opinion là-dessus.
Bien, tu sais, quand je te parlais tantôt, on parle beaucoup d'ambition, de mots, mais il y a beaucoup de mise en marché autour de la carboneutralité. Mais écoute, moi, je n'ai pas été sur Amazon, je ne suis pas un grand consommateur, que ce soit en ligne ou en présentiel, alors c'est personnel. Alors, je te dirais, un produit qui est carboneutre, avant tout, ce qu'il faut voir dans ce geste de carboneutralité, c'est le support qui est fait sur une action, soit de réduction de GES, soit de plantation d'herbes, qui est faite par un projet qui a été, pointé par Amazon et mis en ligne. Mais le produit lui-même n'est pas carboneutre. C'est quelque chose qui est un peu aberrant de dire qu'on a des actions carboneutres. On émet toujours des GES pour tout geste qu'on fait.
Oui, je trouvais ça aussi intéressant. J'ai lu que Carbon 4 avait fait une espèce d'analyse de carboneutralité. Puis en fait, il faisait ressortir que l'atteinte de la carboneutralité, c'est avant tout un processus qui est dynamique et non statique. Puis de la façon de le voir en dynamisme, bien, c'est de se dire qu'il y a toujours plus à faire puis qu'on contribue à la carboneutralité, mais qu'on n'est pas une entreprise où on n'a pas des objets qui sont carboneutres. Puis je trouvais que c'était vraiment une belle façon de voir la carboneutralité, en fait.
Oui, j'adore, j'aime bien lire leur document Carbon 4, parce que finalement, c'est un organisme qui est en France. Oui, mais je trouve qu'ils ont une très belle approche en disant que ce n'est pas un geste qui est mort, c'est plutôt un geste dynamique de, finalement, d'une manière continuelle de participer aux actions climatiques, hein, par exemple, en achetant un produit qui est dit carboneutre, dans lequel le produit dit carboneutre a, supporter un projet de réduction ou de séquestration ailleurs sur la planète.
Si je peux faire ressortir des tendances, en fait, dans tous les épisodes de notre série qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est dans le fond de garder en tête que tout geste a un impact, tant dans l'émission des gaz à effet de serre que dans la diminution. Donc, si je décide de prendre ma voiture, ça a un impact, mais si je décide aussi de prendre mon vélo, ça a également un impact parce que ça évite des émissions de gaz à effet de serre. Puis c'est aussi qu'il faut d'abord et avant tout renforcer notre capacité à émettre le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible avant de les compenser par les marchés du carbone, qui sont des outils super pertinents dans la crise climatique.
Tout à fait. Écoute, les marchés du carbone sont un outil, un instrument dans le coffre à outils. Alors, j'aime bien ton explication. Alors, il faut fermer vraiment la baignoire, le robinet de la baignoire. Alors, tout geste qui contribue à réduire, ce n'est que positif.
Oui, Martin, merci tellement d'avoir répondu à mes questions. C'était un échange qui était très intéressant, qui m'a bien enrichi.
C'est un plaisir, Alexis. Alors, à une prochaine.
Oui, à la prochaine. Si vous appréciez notre série, je vous invite à vous rendre sur notre site web au www.solutionville.com où vous trouverez une mine d'or d'informations sur les thèmes abordés dans cet épisode. À la prochaine!